vous parliez tout à l'heure de vos recherches. Donc là, est-ce que vous continuez à faire des recherches en même temps? Et c'est, si oui, c'est qui s'en charge? C'est des gens que vous engagez?
Oui, c'est souvent des professeurs, c'est souvent des étudiants. Récemment, c'est moi qui ai fait une grosse recherche justement sur Étienne Brûlé, parce que il y a beaucoup de choses qu'on savait pas, donc on a fait une recherche avec la France, les archives nationales, et puis ensuite on est allé à la patrie d'Étienne Brûlé, aux archives de Champigny, et là nous avons rencontré un professeur, et c'est extraordinaire parce que j'ai produit mon documentaire, et maintenant il y a 3 ans j'ai été le présenter à Champigny, et ça a rencontré l'enthousiasme dans une classe de 14-15 ans, ils avaient 13-14 ans à ce moment-là. Ils ont travaillé 2 ans sur le projet, une année pour écrire et une année pour répéter tout ça. Et cette année, ils m'ont invité à l'opéra rock qu'ils avaient créé sur Étienne Brûlé.
Et, ben dis donc,
et vous savez quoi? C'était très bon.
Ah oui?
Moi, je me disais, ouf, là, je me demande. C'était vraiment très bon. C'était pour des... Maintenant, ils ont 14-15 ans. C'était professionnel. Ce qui fait que j'ai la Société d'Histoire et moi, on a maintenant un projet pour les faire venir ici en avril 2017.
Oui.
Et ils sont 26 et 4 adultes. Ça va être toute une gageure. Mais on a déjà des écoles qui sont intéressées à les accueillir, à voir aussi leur représentation. On a l'Alliance française qui nous a déjà donné la date où il va y avoir la présentation. Et moi, je souhaite que Choc FM les invite aussi.
Ah oui, avec plaisir.
Parce que c'est pas possible d'avoir des jeunes de cet âge-là qui se soient enthousiasmés à ce point-là pour Étienne Brûlé. Ils s'identifient à Étienne Brûlé parce qu'ils sont aussi immigrants en France, beaucoup. Alors ils disent, voilà, il est arrivé dans un pays, il savait pas où il était. Eh bien, il a eu du courage. Il y avait des coutumes différentes, il y avait de la nourriture différente, il a eu de courage de passer à travers tout ça, et il a réussi.
Wow, c'est impressionnant. C'est ça que j'aime bien avec l'histoire, c'est que il y a vraiment des choses qui peuvent nous transporter, en fait, nous bouger. D'après vous, comment vous expliquerez, ou bien comment vous adressez l'importance de l'histoire, justement?
Écoutez, moi, question... je suis très mal placée. Parce que pour moi, c'est essentiel.
Ouais.
On dit que la lecture, ça vous permet de vivre plusieurs vies, parce que vous vivez d'autres vies dans les romans et les choses que vous lisez. Moi, l'histoire me permet aussi de vivre plusieurs vies.
Ouais.
Et bon, mes parents étaient comme ça, et je sais pas, ça devient une habitude de vie.
Ouais.
Et puis on fait des découvertes, c'était pas comme on avait pensé. Et puis c'est de bonnes histoires à raconter aussi.
Ouais, ouais.
Je sais pas toi, Ronald.
Oui, ben enfin, moi je te rejoins beaucoup. Ce que tu viens de dire, c'est pareil. C'est intéressant de pouvoir se sentir dans d'autres temps, dans d'autres lieux, tout en étant à la même place. mais aussi, comme je disais tantôt aussi, ça permet aux gens d'approfondir leur identité, ce qu'ils sont, d'où ils viennent, et puis ça permet aussi une intégration. Dernièrement, j'ai fait la visite du village gay, et puis là-dedans, il y avait des gens qui habitaient le village depuis plusieurs années. Il y avait aussi des réfugiés LGBT qui venaient d'arriver. Alors, tous ces gens-là, soit qu'ils découvraient et redécouvraient, mais il y a plusieurs qui habitaient depuis longtemps ici, ils se disaient, je ne savais pas ces choses-là. Et puis, mais j'avais l'impression de voir en eux toute une fierté, là. Et puis voilà, moi je pense que à ce moment-là, je suis content de la visite parce que ça a touché les gens, ils se retrouvent, puis ça fait partie de leur identité. Fait, je trouve ça vraiment important.
Oui, il y a les mots identité et appartenance.
Oui,
je pense que l'histoire aide beaucoup à se forger. Vous savez, quand on est immigrant, il y a le pays qu'on quitte, et quand on est réfugié, il y a le pays qu'on quitte peut-être à regret. Mais c'est aussi une fantastique occasion de se faire une nouvelle identité. Et l'histoire permet de se forger une identité qui a des racines. et une appartenance qui a des racines aussi.
Ok. Et puis pour justement la communauté francophone ici en Ontario, comment vous pensez qu'elle, par rapport à son histoire, est-ce que, parce que je sais qu'il y a certains, par exemple si on parle du règlement 17, il y a certains sujets donc où est-ce qu'il y a encore un petit peu de polémique, comment d'après vous ils vivent un petit peu leur histoire ici, la communauté francophone en Ontario?
Mais je pense que c'est un peu partout pareil, en tout cas on s'approprie un événement, on s'approprie quelque chose qui s'est passé et on décide que c'est notre histoire. Mm-hmm. Et si vous parlez du règlement 17, il y a des écoles d'Ottawa qui ont absolument, pour eux, c'est l'événement capital. Et si vous allez dans les écoles de Toronto ici, c'est différent. Ça a à faire avec, avec les enseignants, ça a à faire avec leur expérience. Mm-hmm. Et c'est ça, on s'approprie. Mm-hmm. On s'approprie de ce qui nous parle, de ce qui nous touche.
Mm-hmm. Mmh. Et puis vous, est-ce que vous trouvez que... Enfin, moi, je sais pas si c'est parce que... Mais j'ai pas mal voyagé, mais je trouve que Toronto se démarque parce que, justement, elle réunit plein d'histoires différentes, en fait. C'est-à-dire que l'histoire... C'est-à-dire qu'il y a des gens de tellement... qui viennent d'horizons différents, ça fait que on se retrouve un petit peu avec un mélange de plusieurs histoires différentes. Est-ce que vous trouvez que déjà que c'est vrai et que ça impacte un peu la ville qu'on connaît aujourd'hui?
Oui, et d'ailleurs, je devrais mentionner que dans les conférences que nous avons, c'est pas toujours l'histoire de Toronto.
Ah oui, c'est...
On a donc parlé beaucoup de la guerre de 1812, on a parlé de toutes sortes de choses, mais nous avons des Français qui viennent raconter on a eu De Gaulle. Mm-hmm. Quelqu'un nous a raconté l'histoire de De Gaulle, des vitraux, de... C'est comment est-ce qu'il faudrait dire? On ouvre beaucoup la Première Guerre mondiale.
Ah oui.
Ben, la dernière conférence que j'ai faite, c'est sur l'année 1816, où un volcan a explosé dans l'Asie et qui a eu des conséquences extraordinaires sur l'Europe et sur le Canada aussi, mais pas plus que ça.
Okay.
Ouais. Donc, si vous avez un sujet... récemment, on a eu l'histoire de la médecine au Canada. Mm-hmm. Et c'est une Française qui a travaillé dans les cellules souches, qui nous l'a fait.
Ah oui, donc...
Avec un point de vue totalement différent de ce que ça pourrait être autrement. Okay. Donc, c'est très ouvert, là. Mm-hmm. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Oui, totalement. Mais... Bah, c'est vraiment ça que j'ai ressenti un petit peu à Toronto.
Ouais.
Mais je trouve que plus... Je sais pas si, mais plus que dans d'autres villes que j'ai pu voir.
Ah oui.
Oui, j'ai.
Ah ouais. On accuse Toronto de ne pas avoir une identité très intense, consistante. C'est peut-être vrai, mais ça permet aussi d'intégrer toutes les identités.
Ouais. Je trouve que c'est une bonne chose.
Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens venant de tous les horizons ont fait l'histoire.
Mm-hmm, c'est ça, en fait, exactement, ouais. C'est ça, en fait. C'est une histoire qui continue, en fait, à se créer. Alors moi, j'ai une petite question, un petit peu différente, avant qu'on continue à parler de la Société d'Histoire de Toronto. Si vous, parce que vous, j'imagine que vous êtes un petit peu deux passionnés d'histoire, si vous deviez choisir une période historique qui vous parle en plus que d'autres, ou est-ce que vous auriez aimé peut-être retourner et vivre, ce serait laquelle? Si c'est pas trop... C'est une question un peu difficile, hein, mais...
Je pense que je vais laisser la parole à Ronald.
Ça dépend si je me sens romantique ou si je me sens aventureux. Ou...
Exactement.
C'est ça. Parce qu'évidemment, tout jeune, j'étais tellement impressionné par les débuts du pays ici, avec les Européens et les Amérindiens. Ça me passionnait, ça. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me disais, waouh, comment est-ce qu'on fait? Puis aussi, j'étais toujours proche de la nature. Je faisais beaucoup de canoë camping et tout. Et puis, mais aussi, toute la question du développement du pays, le temps des chemins de fer, enfin.
Ah oui, aussi?
Oui, c'est passionnant, ces années-là. C'est une belle aventure. Et puis aussi, je pense à mon père qui était immigrant lui-même. Alors, à l'époque, lorsqu'il est venu au pays en bateau, toute cette époque-là, ça bouillonnait, tout ça. Enfin, c'est difficile à répondre, effectivement.
C'est dur, hein?
Moi, je dirais que ça dépend si je suis dans une émotion d'aventure ou de romantisme, en fait. C'est comme ça qu'on s'attache, on rejoint l'histoire. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Danielle?
Mais moi, ça dépend si je me vois comme historienne. Comme historienne, moi, c'est la période 1810, 20, 30, 40.
Ah oui?
Au Canada ou ailleurs. Okay. C'est pour moi, c'est une période qui me parle beaucoup. Maintenant, comme femme, je sais que je serais probablement mort de l'appendicite en 20 ans. Dans un pays qui n'avait vraiment pas beaucoup de médecins à ce moment-là. Alors, je me dis, peut-être que je préfère vivre aujourd'hui.
C'est vrai qu'il y a certaines avancées qu'on ne peut pas négliger.
Non, vraiment pas.
Ok, non, c'était juste une petite parenthèse pour avoir un petit peu votre avis sur ça en tant que passionné d'histoire. Alors, pour les auditeurs qui souhaiteraient devenir membres de la Société d'histoire de Toronto, comment ça se passe?
Alors, ça coûte 30 $ par année. Mm-hmm. En général, ça commence le 1er janvier et ça termine donc le 31 décembre. Okay. Et vous pouvez toujours aller sur le site de www.sht.ca, mm-hmm, et vous pouvez vous inscrire, mais on vous donne aussi, vous rencontrez des membres de la Société d'histoire et tout ça. Et, mm-hmm, et vous aurez, nous avons le président Christian Boyd, qui chaque année au mois de juillet justement pour avoir des membres, parce que nous avons une liste très étendue de personnes à qui nous communiquons, mm-hmm, les informations, mais il nous faut des membres payants, oh, parce que il nous faut avoir au moins 100 membres payants, okay, pour avoir du poids quand nous demandons des subventions.
Oh, okay.
Hein? Alors, le pauvre président, on arrive toujours à 90-95, oh, alors pour avoir son 100-120, il fait un party d'été chez lui et il se jette tout habillé dans la piscine.
Ah oui, hein.
C'est pour ça qu'il fait ça.
Mais oui. Et ça fait que des gens prennent pitié et bon, je plaisante un peu, mais il le fait et on arrive toujours au-dessus de ça. Donc le parti est ouvert à tout le monde. Donc venez voir le président se jeter dans la piscine,
ça vaut la peine,
et devenez membre.
Et donc en tant que membre, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut accéder à toutes les rencontres.
Oui,
les...
absolument. C'est une question de soutenir, mm-hmm, de soutenir la Société d'histoire.
Puis aussi, il y a le droit de vote.
Ça vous donne le droit, mm-hmm, de vote aux assemblées générales pour, mm-hmm, pour élire le CA.
OK. D'accord. Et puis là, pour donc les mois, enfin, on va dire l'année à venir ou les mois à venir, est-ce que vous avez des projets particuliers, des choses, des projets qui sont un truc ou bien?
Ben, moi, c'est mon projet Étienne Brûlé, là,
oui,
l'école de France. Mais il y a encore beaucoup de visites guidées,
oui,
qui doivent se passer, dont une repas de la Chandeleur au mois de février l'année prochaine.
Okay.
Ça m'intrigue.
Ah oui,
j'aimerais bien savoir ce que c'est.
C'est vrai que...
Donc, la personne qui est en charge des conférences a plusieurs conférences vraiment intéressantes, mm-hmm, aussi qui viennent, qu'on fait aussi en partenariat avec l'Alliance française.
OK.
Il y a des sujets qui...
Oui, il y a eu des thèmes...
qui sont proposés par le...
Ah oui,
oui.
Ah, des thèmes gastronomiques.
Mais justement, l'histoire de la Chandeleur, c'est,
ouais,
un autre thème gastronomique.
Ah, vous avez quoi, par exemple, comme thème gastronomique?
C'était l'histoire du... c'était quoi, le café?
Le cocoa.
Le cacao.
Ah,
le cacao,
ah,
chocolat.
Chocolat, et puis...
Donc c'est quoi, vous retournez un petit peu? C'est quelqu'un qui est spécialiste,
oui,
en cuisine?
Elle s'appelle, oui, Chantal Véchambre.
OK.
C'est une membre, simplement membre de la Société d'histoire. Mm-hmm. Elle n'est pas membre du CA, mais elle adore... et cette année aussi, elle veut nous montrer ce qu'il y a de français au musée Gardiner,
oh,
au musée de céramique.
Ouais.
Ça nous intrigue aussi,
ah,
parce,
oui,
qu'on
parce
a...
Que...
je ne sais pas de quoi elle va parler.
Okay. Elle nous a fait découvrir aussi ce qui se mangeait au fort Louisbourg.
Ah ouais,
mmh,
en Acadie.
OK.
En Acadie, ouais.
Ouais.
Ah, donc ça...
Non, c'est ça. Moi, j'organise les visites, mais je ne sais même pas toujours...
OK, donc vous apprenez, même vous,
oui,
vous apprenez...
on
en
est
fait,
complètement intrigués par ce qui va arriver.
D'accord. Mais en tout cas, vous êtes vraiment bonne chance pour la suite. Et puis, on invite vraiment nos auditeurs à devenir membres et puis à venir en découvrir sur leur histoire, l'histoire de leur ville, de leur,
d'accord,
pays aussi.
Et vraiment, bienvenue.
Merci.
Ouais, profitez de l'été pour faire quelques visites.
Oui, c'est ça, aller revisiter un petit peu votre ville, apprendre à la découvrir un peu plus. Ben, merci beaucoup. Donc, on était avec monsieur Dilleman et puis madame Danielle Callot. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et puis, bonne chance à la SHT pour la suite.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Nous, on reste sur les ondes de Choc FM.
« Donc, vous venez d'entendre une nouvelle, un nouveau volet de l'émission spéciale « La jeunesse n'a pas d'âge », qui était donc cette semaine consacrée à la Société d'histoire de Toronto.
On reste bien sur les ondes de Choc FM 105.1. Bonne journée à tous.
La jeunesse n'a pas d'âge, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition et rendez-vous dès lundi 19h pour un nouveau volet de votre émission consacrée aux aînés sur les ondes de Choc FM 105.1.